5 ans universel.
RFI Matin, Andréane Mélard.
Bonjour tout le monde, bienvenue. RFI Matin commence. C'est maintenant 3 heures d'infos, de chroniques, de reportages et d'invités. Ce matin, votre radio reçoit le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndoungiréhe. Vous l'entendrez dans une demi-heure. Et puis dans une heure, le journaliste vénézuélien en exil, Carlos Castillo, sera dans notre studio. Il nous parlera de son pays dévasté et meurtri par un double séisme la semaine dernière. D'abord, c'est votre journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane Mélard, bonjour à toutes et à tous.
Et vous nous parlez de l'Ukraine qui a passé une nouvelle nuit sous les bombes russes.
Une nuit de frappe particulièrement intense dans un moment où Kiev a renforcé sa riposte en Crimée occupée notamment. Des bombardements de grande ampleur qui ont fait au moins 10 morts dans la capitale ukrainienne où nous retrouverons dans un instant Emmanuel Chaz. Reportage à suivre ensuite au Venezuela où nos envoyés spéciaux se sont rendus dans un hôpital de fortune installé dans une enseigne de restauration rapide une semaine après le double séisme. Le bilan s'élève désormais à près de 2300 morts. Nous serons ensuite en France où le groupe écologiste attaque le gouvernement, coupable à ses yeux de ne pas avoir anticipé la canicule dans le pays. Une motion de censure a été déposée. Et puis enfin aux États-Unis où les supporters sénégalais feront longtemps des cauchemars après ça.
C'est parti! Oh, c'est dedans! C'est fini! Et là, Maurice Diaw qui n'a rien pu faire. 3-2 pour la Belgique. Que c'est cruel pour le Sénégal, mais scénario invraisemblable dans ce 16e de finale.
Une élimination 3-2 face à la Belgique après avoir mené 2-0 dans ce 16e. Désillusion aussi dans les rues de Dakar, vous l'entendrez.
Volodymyr Zelensky est rentré en urgence à Kiev hier soir, pressentant une attaque de grande ampleur de la Russie.
Attaque qui a bien eu lieu au cœur de la nuit. Le président ukrainien avait alerté hier depuis Dublin, en Irlande, que des bombardements de grande envergure étaient en préparation. Bombardements russes qui ont fait au moins 10 morts et 56 blessés à Kiev, la capitale ukrainienne. On retrouve notre correspondante Emmanuel Chaz. Emmanuel, les autorités ukrainiennes avaient mis en garde la population. Le bilan humain est très lourd.
Oui, tout à fait. Les 3 millions d'habitants de la capitale ont vécu une nuit tout simplement infernale. Ils étaient des dizaines de milliers à s'être abrités dans des caves, des parkings souterrains ainsi que dans le métro, alors que Kiev était en proie à des attaques russes hybrides de drones et de missiles lancés en vagues successives tout au long de la nuit. Il y a près de 30 sites à travers la capitale qui ont été touchés. Plusieurs incendies se sont déclarés et certains font toujours rage alors que plus de 500 170 pompiers sont sur place. Il y a des bâtiments résidentiels qui ont été détruits, éventrés par les frappes, tout comme un centre de secours où plusieurs ambulanciers ont été blessés. Le plafond d'une station de métro s'est même partiellement effondré suite à une frappe. Et ce matin, les secouristes tentent de retrouver des survivants dans les décombres un peu partout dans la capitale. La forte concentration de fumée a rendu l'air tout simplement irrespirable à un moment de forte chaleur, à un moment aussi où les inquiétudes sont vives quant à l'état du réseau énergétique suite à ces attaques.
Merci beaucoup Emmanuel Chaz, correspondante de RFI en Ukraine en direct de Kiev. Une semaine de deuil national décrétée au Venezuela, annonce faite par la présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez, alors que le bilan du double séisme de la semaine passée s'est encore alourdi. Il s'établit désormais à près de 2300 morts, le Venezuela, où 50 000 personnes sont toujours portées disparues et où les secouristes espèrent toujours retrouver des survivants. À Katia Lamar, ville portuaire près de Caracas, plusieurs centaines d'entre eux tentent de sauver un homme de 43 ans qui a survécu une semaine dans les décombres. Le pays qui manque par ailleurs cruellement d'infrastructures pour faire face, les soignants sont obligés d'établir des hôpitaux de fortune dans des lieux pour le moins insolites, notamment dans un restaurant McDonald's de La Guaira, dans le nord du pays. Reportage de nos envoyés spéciaux Mélissa Barra et Jadel Koury.
La cuisine et les photos de burgers affichées au-dessus du comptoir, c'est tout ce que les chirurgiens bénévoles ont gardé après avoir vidé le restaurant de ses tables. Le fast-food est resté intact après le séisme. Le docteur Fernando Jaimes en a donc forcé la porte.
En entrant, on a envoyé une vidéo à McDonald's pour leur montrer qu'on ne venait pas pour piller, mais pour s'abriter et recevoir des blessés. La direction a rétabli l'électricité et c'est comme ça que tout a commencé.
Pas question d'opérer ici, mais on y dispense les premiers soins. Avec une table de triage, une pharmacie de fortune, des matelas à l'étage pour les patients et la nuit pour 30 soignants aussi. La docteure Mélanie Martinez en fait partie.
Nous recevons des patients atteints de maladies chroniques ou des personnes qui se sont blessées en fouillant les décombres. Hier, un homme souffrant d'Alzheimer est arrivé et il était porté disparu. Sa famille le croit. croyait mort. On a réussi à contacter les proches qui sont venus le chercher.
Plus loin, la vétérinaire Laïda Garcia, une perfusion dans le bras, elle fait partie de l'équipe de secouristes.
Nous sortons tous les jours à la recherche d'animaux de compagnie. Il fait très chaud et je n'ai pas fait assez attention à moi. On a dû m'hydrater.
Au cœur de la dévastation, ce McDonald's est désormais le seul lieu climatisé à des kilomètres. Mélissa Barra, Jadel Khoury, La Guaira, RFI.
L'Iran, Martin, siffle la fin des pourparlers à Doha.
Des discussions indirectes et techniques entre les États-Unis et l'Iran, désormais terminées dans la capitale qatarienne, c'est ce que déclare Téhéran. L'Iran qui annonce qu'un canal de communication entre les deux parties sera mis en place ce jeudi pour signaler et recenser toute éventuelle violation du protocole d'accord. Jusqu'ici, tout se passe bien, assure lui Donald Trump. Parmi les points qui restent à discuter toutefois, la gestion du détroit d'Ormuz, mais aussi l'épineuse question des avoirs gelés. Téhéran qui espère la fin, au moins l'allègement de toute une série de sanctions. Nicolas Falaise.
Le Qatar, l'un des pays médiateurs, a la main sur plusieurs milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Une partie des sommes que Téhéran espère recevoir en échange de concessions sur son programme nucléaire. Selon le chercheur Clément Terme, spécialiste de l'Iran, c'est l'un des nœuds les plus complexes de la négociation entre les États-Unis et la République islamique.
Il s'agit d'obtenir le dégel de ces fonds sans condition. C'est ça l'objectif de la République islamique. Et du point de vue américain, l'objectif, c'est de maintenir les prix du pétrole bas jusqu'au mid-terms, en reportant au plus tard possible le dégel des fonds pour ne pas avoir à faire face au Congrès, puisque certains des soutiens du président Trump ne sont pas favorables à ce dégel des avoirs iraniens. Donc, des deux côtés, il s'agit de gérer les contraintes politiques internes.
Aux États-Unis comme en Israël, les partisans de la manière forte contre l'Iran n'avaient pas digéré l'accord nucléaire de 2015, car à l'époque, il avait permis à Téhéran de bénéficier de la levée des sanctions. Asphyxiée économiquement, la République islamique a aujourd'hui un besoin urgent de rentrée d'argent, mais seul un nouvel accord nucléaire permettra le dégel des sommes bloquées dans des banques étrangères.
L'Iran qui a par ailleurs affirmé hier qu'il utiliserait une partie de ses avoirs gelés au Qatar pour acquérir des produits dont il a besoin, et qu'il existait un accord sur la base des besoins manifestés par Téhéran, sans donner plus de détails. Le Qatar, pays médiateur dans le conflit, a lui fait part ce matin de progrès très positifs entre les deux parties et annonce que les pourparlers reprendront après les funérailles d'Ali Khamenei.
RFI 7h08, à Paris comme à Marseille, où se rend aujourd'hui le Premier ministre français.
Sébastien Lecornu attendu dans la cité phocéenne pour piloter une nouvelle cellule de crise alors qu'un nouvel épisode de canicule se profile dans l'Hexagone. Ce serait déjà le troisième épisode du genre depuis la fin du mois de mai. Et le groupe écologiste à l'Assemblée nationale dénonce l'impréparation du gouvernement et annonce à la surprise générale son intention de déposer une motion de censure pour sanctionner le gouvernement. Surprise diversement appréciée dans les couloirs de l'Assemblée, Victorien Villaume.
Dans une période assez peu porteuse pour les écologistes, front interne contre la secrétaire nationale, projet de primaire qui semble voué à l'échec, la canicule leur a redonné de la visibilité. Mais cette motion de censure découle d'une démarche très politicienne, dénonce la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Le député du Bloc central, Frédéric Valletoux, est sur la même ligne.
Ça n'a aucun sens. On ne va pas renverser les gouvernements parce que pendant 10-15 ans, on a pris du retard dans l'ajustement de notre société à ces épisodes-là.
Concrètement, pour que Sébastien Lecornu tombe, il faudrait qu'en plus des écolos et de LFI, le RN et le PS votent la censure, ce qui semble bien mal embarqué. La députée socialiste Estelle Mercier.
Ce qu'on voit comme signal le groupe écologiste, à mon avis, a beaucoup de sens. Pour autant, je ne suis pas sûre que l'outil motion de censure soit le meilleur outil actuel.
Les écologistes se défendent de tout calcul politique et parlent de l'incompétence du gouvernement. Sandrine Rousseau.
Quand on a été à ce point-là absent d'un épisode où tous les Français, je ne crois pas qu'il y ait un seul Français qui n'a pas souffert de cet épisode de canicule. La responsabilité d'un gouvernement peut être engagée.
Mais le bien fondé de cette démarche fait débat, y compris dans les rangs des Verts. Je ne suis pas favorable aux motions de censure paresseuses, confie une élue du parti de Marine Tondelier.
Une motion de censure qui pourrait être examinée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.
La France, Martin, où s'achève aujourd'hui le 9e congrès mondial contre la peine de mort.
Alors que les exécutions dans le monde n'ont jamais été aussi élevées depuis 1981, et ce malgré l'abolition de la peine de mort en Centrafrique, en Zambie et au Zimbabwe ces dernières années. Et si 114 pays l'ont officiellement aboli, ce n'est pas le cas du Japon, où Iwao Akamata est devenu une véritable figure, lui qui a passé plus de 40 ans dans le couloir de la mort, Avant d'être innocenté en 2024, liberté retrouvée qu'il doit à sa sœur qui a lutté toute sa vie contre le système judiciaire japonais. Une sœur âgée de 92 ans nommée Hideko Akamata et que Nicolas Rocca a rencontré en marge de ce 9e congrès mondial.
Moi, je n'ai jamais songé à abandonner, confie dans un large sourire Hideko Akamata. Ses yeux rieurs, sa bonhomie tranche avec la dureté d'une vie dédiée à sortir son frère du couloir de la mort.
Tout est parti du fait qu'Iwao est innocent. Il n'a rien fait. On ne condamne pas à mort quelqu'un d'innocent. Mais nous avions épuisé tous les recours. Il ne restait que le procès en révision. Alors, il fallait simplement se battre pour l'obtenir.
Condamné en 1968, il est enfin acquitté le 26 septembre 2024, un jour gravé dans la mémoire de sa sœur.
J'étais extrêmement heureuse, tellement heureuse. Il n'y a pas d'autre mot.
Mais Hideko Akamata refuse de s'arrêter là.
Vous voyez bien que je ne tiens pas en place. C'est mon tempérament. Je dois continuer à militer aujourd'hui pour venir en aide à toutes les victimes d'erreurs judiciaires. Lutter contre la peine de mort. Tant que j'ai de la force, je continuerai à agir.
Une voix qu'elle veut porter à l'international comme dans son propre pays. Au Japon, la peine de mort est toujours en vigueur et reste soutenue par la majorité de la population.
Et le 9e congrès mondial contre la peine de mort qui s'achève lui ce jeudi à Paris.
On termine par cette terrible 86e minute au mondial, fatale aux équipes africaines.
À la Côte d'Ivoire d'abord mardi soir, c'est à la 86e minute qu'Erling Haaland a inscrit le but vainqueur de la Norvège. C'est au même moment du match qu'Harry Kane a hier enterré les espoirs congolais, l'attaquant anglais qui a inscrit un doublé pour une victoire 2-1 de l'Angleterre face à la RDC. C'est à la 86e minute encore une fois que la Belgique est revenue dans le match hier face au Sénégal. Le Sénégal qui met 2-0 grâce à Bidiara.
sea. I went riding all around, let the past soak up the sand, tried to picture it going down. Come on away from me, is it done? Come on away from me, is it done? Come on away from me. Come on, wait for me. Is it done? Felt to pull, I pull away. We got nothing that I say. Still I feel it's not this way. Waiting, nothing's going down. Can't seem to get it off the ground. Seeing if I come around. Come on away from me, is it done? 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 Or is it you? Is it you? Is it you?
Ville et ses petits secrets, Radio Corbeau.
Allez, laissez tomber maintenant.
Radio
Corbeau. Ce serait plutôt de vous occuper de cette radio, elle est illégale.
Terminé avec porter plainte.
Et sinon changé, pour le mix des cultures, c'est sur le 102.4 à Évreux, 95.9 dans le sud de l'Eure et sur www.principactif.net.
Yeah.
Já vazaram, nadê banho, nadê banho foi, ya. Uma pisa, duas pisa, sete pisa, já vazaram.
Agora, ya, só que era minha gorjeta.
Yeah.
exister sans citer. Ça prend pas position, aboyer dans un stade, aduler un biceps, crier. On a gagné alors qu'on est resté le cul devant sa télé. Quand on donnera à la pensée ce qu'on donne au ballon, oui. On aura sauvé la nation, mais pour l'instant, ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens, ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens, ça s'étonne, ça se plaint plus. Je connais l'homme plus, j'aime les chiens.